Vous écoutez RTL.
RTL 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'info à la une. La gifle à Anne Hidalgo, c'était la mesure phare de la maire de Paris, le symbole de sa politique écologiste. La piétonnisation des voies sur berge au centre de la capitale a été annulée cet après-midi par le tribunal administratif. La justice explique que l'étude d'impact comporte des inexactitudes et des omissions. Alors dans RTL Soir, on va vous détailler les raisons de cette décision. Vous entendrez la réaction de la mairie de Paris. Nous nous demanderons si les voitures vont à nouveau circuler sur les bords de la Seine et on débattra de la mauvaise passe d'Anne Hidalgo dans Refait le Monde. RTL Soir, première édition, avec vous Céline Landreau. Bonsoir Céline.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 18h.
Air France en zone de turbulence appelle à la grève quasi unitaire demain pour la compagnie. Pilotes, personnel de cabine et au sol réclament une augmentation des salaires. 50% des longs courriers seront annulés.
À 18h20, invité d'RTL Soir, le président du principal syndicat de pilotes d'Air France, Philippe Évin.
Gérard Collomb défend un texte équilibré. Le ministre de l'Intérieur a présenté le projet de loi Asile et Immigration aujourd'hui. Un texte peu efficace selon le Conseil d'État. Deux soldats français tués au Mali et Emmanuel Macron qui réclame une trêve en Syrie. L'enclave de la Ghouta orientale bombardée par le régime de Bachar al-Assad est devenue l'enfer sur terre selon l'ONU.
Invité de ce journal, le docteur Ziad Alissa, président d'une ONG médicale présente en Syrie.
La première confrontation dans l'affaire Théo, une 14e médaille pour les Français à Pyeongchang. La bourse de Paris, elle, termine en hausse. Ce soir, plus 0,23% à 5 302 points. Et puis les courses à Cagnes-sur-Mer. Il fallait jouer le 16, le 10, le 9, le 7 et le 11.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, mieux rembourser les dents visibles, moins les autres. C'est l'une des pistes de l'assurance maladie pour que les prothèses ne vous coûtent plus rien. Mais aujourd'hui, comment ça se passe? Puis direction les coulisses de l'actualité, libéré, délivré, comment le chef des Républicains juge sa prestation d'hier? On vous amène en coulisses dans la tête de Laurent Wauquiez. 18h30, Alain Duhamel, la polémique sur la loi immigration. 18h35, allez, Dave, Sheila, Nicoletta, s'ils n'ont plus 20 ans, leurs chansons n'ont pas pris une ride. Emmenés par Christophe de Chavannes, ils enflamment les zéniths pour la tournée H-Tendre. Notre ami Christophe de Chavannes passe par RTL tout à l'heure. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Marc-Olivier.
Demain du soleil et attention au froid, Louis.
Exactement, il faut sortir un peu toute la panoplie des doudounes, des moonboots et tout ce que l'on veut parce qu'il va faire de plus en plus froid. Demain matin, les gelées, ça sera pour tout le monde, sauf très localement au bord de mer et encore. On descendra parfois jusqu'à moins 3, moins 4 degrés. Et en cours d'après-midi, des températures largement en dessous des moyennes de saison. On ne dépassera pas les 2 à 7 degrés, quelle que soit la région, sauf très localement sur le littoral méditerranéen où on frôlera les 10 degrés. Tout cela avec un ciel très dégagé quasiment partout. Plus on ira quand même vers les Alpes et le sud-est, plus on conservera un ciel nuageux avec encore quelques flocons dans les Alpes, encore sur le relief corse.
Et on va vers le froid donc, hein, Louis.
Ah, de plus en plus.
Merci et à tout à l'heure.
RTL Soir.
Camouflé pour Anne Hidalgo, le tribunal administratif de Paris suspend donc la fermeture des voies sur berge, Céline.
C'était l'une de ses mesures phares pour lutter contre la pollution de l'air, la fermeture à la circulation des voies sur berge, rive droite, au centre de la capitale. Mais aujourd'hui, cette décision est suspendue par le tribunal administratif. Sophie Jousselin, les juges reprennent la maire de Paris sur le fond et sur la forme.
Oui, la copie est à revoir. Selon le tribunal, l'étude d'impact environnemental qui a servi de base à la mairie de Paris pour asseoir son projet était inexacte. Selon l'autorité administrative, elle comportait des omissions et des insuffisances sur l'effet du projet concernant la circulation automobile, la pollution atmosphérique et les nuisances sonores. Des imprécisions qui avaient d'ailleurs déjà été signalées par une commission d'enquête publique qui avait donné un avis défavorable au projet. En conséquence, le décret du 18 octobre 2016 qui actait la fermeture à la circulation automobile est lui aussi annulé. Décret qui, en plus, avait été pris sur le fondement d'un article du Code de l'environnement qui ne permet pas de prononcer une interdiction permanente de la circulation. Alors théoriquement, cette décision est exécutoire, mais dans les faits, c'est compliqué de le faire immédiatement. Les voitures ne recirculeront pas ce soir sur les voies sur berge, mais on imagine difficilement que la mairie de Paris abandonne la partie. Elle devrait relancer une procédure en bonne et due forme.
Les explications de Sophie Jousselin pour RTL, la mairie de Paris qui va tenir une conférence de presse dans quelques minutes. Vous entendrez la réaction donc des élus de la mairie dans RTL Soir.
En attendant, cette décision réjouit les opposants à la maire de Paris dans son combat contre les voitures dans la capitale. Pour Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, la décision des juges est logique.
Il fallait s'y attendre. C'est une décision qui avait été prise de manière idéologique par Anne Hidalgo. Sans concertation, elle allait à l'encontre de tous les rapports d'experts qui avaient été déposés, y compris les rapports indépendants. Donc comme dans tout projet mené de manière idéologique, il y avait des failles, ça a été trop vite, ça a été trop mal fait. Il y avait trop de monde handicapé, trop de bouchons créés, des chiffres en termes de pollution qui n'étaient pas bons non plus. Je pense que le tribunal administratif a dû se baser sur toutes ces données pour se rendre compte qu'il y avait un véritable problème.
Pierre Chasseret, donc joint pour RTL par Fabien Randrian et Sirosoir. Une grève quasi unitaire chez Air France qui va clouer au sol la moitié des longs courriers demain.
Un trafic fortement perturbé. La compagnie ne prévoit d'assurer que la moitié, vous le disiez, des longs courriers au départ de Paris. Ce sera un peu mieux pour les moyens courriers. 75% des vols, jusqu'à 85% pour les courts courriers. Pilotes, personnel navigant et au sol réclament une augmentation générale de leur salaire de 6% en s'appuyant sur les résultats de l'entreprise en forte hausse. Une demande irréaliste pour Franck Terner, le directeur général d'Air France.
C'est une mauvaise chose pour l'entreprise, pour ses résultats et donc pour ses salariés. Il faut avoir conscience que si nos résultats se sont améliorés, nous les produisons dans un contexte concurrentiel extrêmement agressif et ces résultats sont significativement en dessous de ceux de l'ensemble de nos compétiteurs. Quelle est la revendication aujourd'hui? 6% d'augmentation de rémunération. Aussi, la perspective d'augmenter les coûts de 240 millions supplémentaires, ce qui porterait à 440 millions l'ensemble de la redistribution vers les salariés, c'est-à-dire sensiblement la quasi-totalité du résultat d'Air France, ce n'est pas réaliste.
Le directeur général d'Air France, on en reparle à 18h20 donc avec le président du SNPL, le principal syndicat de pilotes chez Air France. Un texte équilibré, voilà comment Gérard Collomb a présenté aujourd'hui le projet de loi Asile et Immigration.
Un texte qui prévoit de raccourcir les délais de traitement des demandes d'asile, de faciliter la reconduite aux frontières des déboutés, mais aussi d'améliorer l'intégration des personnes admises sur le territoire. Un projet de loi controversé jusque dans les rangs de la majorité. Certains y voyant plus de fermeté que d'humanité. Le Conseil d'État, lui, met en cause l'efficacité du texte qui, loin de simplifier le droit des étrangers, ajouterait des couches supplémentaires. Une critique qui n'est pas du goût du ministre de l'Intérieur.
Le Conseil d'État peut dire le droit. Je ne suis pas sûr qu'il soit capable de dire l'efficacité. Le ministre de l'Intérieur peut peut-être juger, et les services qui sont concernés, de l'efficacité. Vous voyez, par exemple, pour donner un chiffre, entre janvier 2017 et janvier 2018, nous avons fait plus 22% d'éloignement, ce qui montre une certaine efficacité. Donc, que les uns s'occupent du droit et les autres s'occuperont de l'efficacité.
Le ministre de l'Intérieur au micro RTL de Sinamir. On en reparle évidemment à 18h30 avec Alain Duhamel.
Près de 3000 sans-abri ont été comptabilisés à Paris dans la nuit de jeudi à vendredi. C'était lors d'une opération inédite en France. 2000 personnes étaient mobilisées pour ce premier comptage des SDF dormant dans la rue.
Ce matin, Céline, deux soldats français ont été tués dans l'explosion d'une mine artisanale au Mali.
Deux militaires du 1er régiment de Spahi de Valence dans la Drôme. La mine a explosé au passage de leur véhicule blindé. Un troisième soldat a été blessé. Deux nouveaux décès qui portent donc à 12 le nombre de militaires français tués depuis le lancement de l'opération Barkhane à l'été 2014 et à qui Emmanuel Macron a rendu hommage.
Nous avons en effet ce matin perdu deux soldats dans le conflit que nous menons au Sahel. Ces pertes viennent après plusieurs pertes très lourdes de plusieurs dizaines de terroristes que nous avons faites ces derniers jours. Et je veux ici témoigner nos condoléances à l'égard des familles de nos deux militaires.
Emmanuel Macron avec Brice Dugénie pour RTL. Emmanuel Macron qui demande également une trêve dans la Ghouta orientale et cela dans les meilleurs délais, Céline.
L'armée de Bachar al-Assad multiplie depuis dimanche les bombardements sur cette enclave rebelle syrienne à l'est de Damas. En 4 jours, près de 300 civils ont été tués, 1400 autres blessés selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et la situation humanitaire est critique, Pierre Julien, dans cette région où 400 000 personnes sont assiégées depuis 2013.
Oui, et de nouveaux raids aériens ont été menés toute la journée sur la région de la Ghouta orientale, ciblant notamment les localités d'Amourié, de Kfar Batna. Bombes et barils d'explosifs ont été largués de manière aveugle, aussi bien sur les combattants que sur les civils innocents. Si Moscou a démenti participer à ces opérations, Bachar al-Assad a bien lancé ses avions, ses hélicoptères, afin d'éliminer les rebelles, estimés à 15 000 hommes qui appartiennent à Jaïch al-Islam, l'ancienne brigade de l'islam, des salafistes profondément anti-chiites, ou à la Légion du Miséricordieux, Faisal al-Rahman, considéré comme la plus modérée par les Occidentaux. Ce sont ces mouvements qui, il y a 6 ans, ont tenté de renverser le maître de Damas, mais les principales victimes sont bien les femmes, les enfants, les vieillards. Un premier bilan pour ce seul mercredi fait déjà état de 38 morts et de plus de 250 blessés. L'aide humanitaire a été suspendue en raison de la violence des bombardements. L'ONG CARE souligne que les marchés, les boulangeries, les hôpitaux sont visés comme n'importe quel objectif militaire. Et la Croix-Rouge internationale vient de lancer, de même qu'Emmanuel Macron, un appel à un cessez-le-feu, une trêve pour acheminer vivres et médicaments, car de nombreux blessés succombent faute de soins.
Explication de Pierre-Julien du service étranger de RTL.
Et invité de ce journal, le docteur Ziad Alissa, médecin anesthésiste franco-syrien et président de l'Union des organisations de secours et de soins médicaux. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Quelles sont les informations qui vous parviennent? Donc vous êtes en lien direct avec les médecins sur place?
C'est l'enfer. Et c'est ça vraiment le terme qu'utilisent les collègues là-bas, c'est l'enfer. Hier, les bombardements, c'était jusqu'à 2h du matin. Ils l'ont repris à 5h du matin. Le collègue qui était là-bas, qui était en train de transmettre en direct ce qui se passe, malheureusement, on a perdu l'après-midi.
Il est mort. Il vous donnait des informations.
Et il nous donne des informations en direct. Il est mort. C'est un papa de deux enfants. Il a 28 ans. Et il est mort suite à ces bombardements-là. C'est l'enfer. Il n'y a pas de moyen de fuir. Les familles qui essaient d'aller en sous-sol pour trouver des refuges, malheureusement, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de quoi chauffer. Il n'y a pas assez de nourriture. Et il y a des morts partout. Justement, la journée d'hier, il y avait à peu près 100 morts.
100 morts, dont des enfants. Les hôpitaux tiennent encore debout ou tout manque là-bas et les hôpitaux également?
Malheureusement, il y a déjà des manques dans les hôpitaux, de manque de consommables, de manque de médicaments, de manque de médecins. Et en plus de ça, les hôpitaux eux-mêmes, ils étaient cibles. Et on sait que depuis le début du mois de février, il y avait 10 structures médicaux qui ont été bombardées. Ça veut dire même les hôpitaux, ils sont bombardés, ils sont visés par les bombardements.
Et de quoi ont besoin les habitants? On sait qu'il y a des personnes qui sont mortes de faim et de malnutrition parce que le régime a asphyxié la région depuis 5 ans. Mais aujourd'hui, après ces bombardements, de quoi ont besoin les habitants?
Numéro 1, d'arrêter de bombarder.
Bien sûr.
C'est ça ce qu'ils demandent tous, d'arrêter le bombardement. Numéro 2, de faire de vrais couloirs humanitaires pour qu'on arrive à acheminer la nourriture et les médicaments et évacuer les blessés.
Les images sont bouleversantes évidemment, mais vous avez entendu Bachar el-Assad et ses alliés qui disent qu'ils frappent des groupes rebelles islamistes et également des djihadistes. Alors hélas, malheureusement, il y a des civils, mais pour eux, les frappes, c'est pour des djihadistes et des rebelles islamistes.
Malheureusement, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que lorsqu'on regarde les statistiques des hôpitaux, lorsqu'on regarde les listes des blessés, et sont la plupart des femmes, des enfants, des civils qui habitent cette région. On sait qu'il y a 400 000 habitants de cette région-là. Bon, s'il y a 1 000, 2 000 djihadistes qui sont là, c'est pas quand même la cause pour bombarder 400 000 habitants dans cette zone-là.
C'est ça le rapport, en fait. C'est 1 000 djihadistes versus 400 000 personnes qui sont bombardées. Donc, en fait, on a tiré... C'est la même logique qu'à Alep, d'une certaine manière, ou à Homs. C'est exactement la même logique.
On est en train de voir là maintenant le même scénario d'Alep. Et malheureusement, on n'a pas quand même appris de l'histoire d'Alep. Et là maintenant, les mêmes choses, ça se répète à Al-Ghouta.
Vous demandez quoi à la communauté internationale? On a entendu donc Jean-Yves Le Drian qui va se rendre dans les prochains jours en Russie, en Iran. Des belles phrases, des belles intentions. Vous dites on laisse carte blanche à Bachar el-Assad. Malgré tout, vous demandez quoi à la communauté internationale?
Nous, en tant quand même d'organisation humanitaire neutre, apolitique et amilitaire, la solution politique, la solution de régler le problème de la Syrie, malheureusement, là maintenant, le problème de la Syrie est trop compliqué. Mais déjà là maintenant, respectons au moins ce qu'on a fait, l'humanité. On sait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a quand même l'accord de Genève d'épargner les civils, épargner les hôpitaux. Respectez au moins les règles de la guerre.
Vous craignez que, comme Jean-Yves Le Drian, que le pire soit devant nous?
Oui, parce que les bombardements actuels, ils visent vraiment des gens très faibles. Je viens de lire, il y a maintenant même pas une heure, un témoignage d'un médecin là-bas qui a essayé de sauver une vie. Malheureusement, la maman était enceinte. Il n'a pas pu sauver la maman. Il a essayé de sauver le bébé. Et lorsqu'il raconte quand même l'histoire de cette famille, que le père il est mort, que les enfants sont morts, que la maman aussi, que le bébé qu'il a essayé de sauver, il a arrivé à sauver le bébé. Mais quel avenir pour ce bébé-là? Quel avenir pour cette population? Nous, c'est un devoir humanitaire de faire quelque chose pour cette population-là.
Merci docteur Alissa d'être venu ce soir sur RTL. Merci à vous.
Merci à vous.
RTL soir, 18h14.
Et dans un instant, l'affaire Théo, première confrontation en ce moment même entre le jeune homme et les policiers qui l'accusent de viol. Banal.
RTL soir, 18h15, Marc-Olivier Fogiel et pour la suite du journal, Céline Andreau.
Et première confrontation donc dans l'affaire Théo, Céline.
C'était il y a un an, le 2 février 2017. Théo, 22 ans, était gravement blessé par un coup de matraque au niveau de la zone rectale lors de son interpellation à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Interpellation pour le moins musclée. Dans cette affaire, 4 policiers sont mis en examen pour violences volontaires aggravées. L'un d'eux est aussi poursuivi pour viol. 3 de ces agents sont cet après-midi au tribunal de grande instance de Bobigny face à celui qui les accuse. Guillaume Chiez.
Oui, cela fait maintenant plus de 4 heures que Théo est confronté à ses agresseurs présumés dans le bureau de la juge d'instruction. L'une des questions qui se pose, c'est de savoir si la notion de viol retenue dès le départ pour l'un des policiers peut être maintenue. Un rapport médical récemment porté au dossier conclut que le coup de matraque n'a pas pénétré directement l'anus du jeune homme. En revanche, il a été exercé avec une force telle qu'il a entraîné une lésion du canal anal sur 10 cm. Les avocats des policiers vont également se reposer sur un autre volet de ce rapport. Celui qui conclut à une utilisation de la matraque conforme aux pratiques professionnelles. Pour Maître Antoine V, ce rapport ne change rien à la gravité des faits. Son client, Théo, souffre encore aujourd'hui de très lourdes séquelles. Cette confrontation qui a lieu à la demande de la juge d'instruction est pour lui l'occasion de les rappeler et de revenir en détail sur ce contrôle d'identité de février 2017. Une confrontation qui est d'ailleurs l'un des derniers actes de cette instruction qui devrait bientôt toucher à son terme. On connaîtra alors le sort judiciaire réservé aux 3 policiers présents puisque l'un des 4 policiers mis en examen n'a pas été convié. Il était au sol lors du contrôle à cause d'un mauvais usage de sa bombe lacrymogène. Il pourrait être mis hors de cause dans cette affaire.
Guillaume Chiez donc en direct de Bobigny pour RTL. Jérôme Cahuzac sera le 15 mai prochain s'il échappera ou non à la prison.
L'ancien ministre du budget est jugé en appel pour fraude fiscale. Il avait été écopé en première instance de 3 ans de prison ferme. La même peine a été requise hier par l'avocat général. Et ce matin, Thomas Proutot, c'est la défense qui avait la parole. Éric Dupond-Moretti a supplié la cour de ne pas envoyer l'ancien ministre en prison.
Oui, et ce au nom de la sanction sociale qui frappe déjà l'ancien ministre du budget. Voilà la clé de voûte de la plaidoirie. L'avocat médiatique écarte d'emblée une quelconque excuse. Ce n'est pas mon ami, lâche le ténor à l'adresse de Jérôme Cahuzac, mais il s'attache à dresser le portrait d'un homme à terre, carrière brisée, agression verbale par des anonymes, jusqu'à cette ONG où intervient désormais le chirurgien Cahuzac et qui a refusé de produire une attestation par crainte du candidaton. Il faut le voir à notre cabinet assis pendant des heures à ne rien faire, perdu. Vous ne croyez pas que c'est assez, il faut aller jusqu'où, lance le pénaliste à l'avocat général qui a réclamé 3 ans ferme. Éric Dupond-Moretti interpelle alors le président et déroule toute une de décisions prises par la même cour pour fraude fiscale. Un député, un sénateur, un procureur poursuivi pour des ardoises de quelques centaines de milliers d'euros. Pas un n'a été envoyé derrière les barreaux. On parle pour Cahuzac de 450 000 euros de fraude, conclut l'avocat, et il a tout remboursé. La prison ne serait pas une décision de justice.
Compte rendu d'audience pour RTL, signé Thomas Proutot. Et puis une 14e médaille pour les tricolores à Pyeongchang. Les fondeurs ont terminé 3e du sprint par équipe.
L'équipe de France n'est donc plus qu'à un podium du précédent record de médailles établi à Sochi il y a 4 ans, grâce aux héros du jour, Maurice Magnificat et Richard Jouve, qui savourent sa première médaille olympique après une course accrochée.
Il fallait être costaud, là. J'étais dans un bon jour, donc je suis vraiment content. Maurice m'amène le relais vraiment idéalement. On fait une soirée de ouf. C'était un team sprint vraiment dur. On a réussi à bien contrôler. Après, passer dans cette dernière ligne droite, je déboule 3. Je savais que j'allais pas être passé, donc j'ai quand même bien savouré dans cette dernière ligne droite. Et c'est génial, quoi.
Richard Jouve, donc au micro de nos confrères de France Télévisions. À tout à l'heure, Céline, vous revenez à 18h30. Prochain point sur l'actualité.
À tout à l'heure.